Chapitre 5, la nuit du 24 août 1572, les massacres. Lorsque la Mole et Coconas eurent achevé leur maigre souper, car les volailles de l'hôtellerie de la Belle Étoile ne flambaient que sur l'enseigne, Coconas fit pivoter sa chaise sur un des quatre pieds, étendit ses jambes, appuya son coude sur la table et, dégustant un dernier verre de vin, « Est-ce que vous allez vous coucher incontinent, monsieur de la Mole ? » demanda-t-il. « Ah, ma foi, j'en aurais grande envie, monsieur, car il est possible qu'on vienne me réveiller cette nuit. »« Et moi aussi, » dit Coconas, « mais il me semble, en ce cas, qu'au lieu de nous coucher et de faire attendre ceux qui doivent nous envoyer chercher, nous ferions mieux de demander des cartes et de jouer, cela fait qu'on nous trouverait tout préparé. » « J'accepterai volontiers la proposition, monsieur, mais pour jouer, je possède bien peu d'argent, à peine si j'ai 100 écus d'or dans ma valise, et encore, c'est tout mon trésor. »« 100 écus d'or ?» s'écria Coconas, « et vous vous plaignez ? Mordi, mais moi, monsieur, je n'en ai que 6. »« Allons donc, » reprit la Mole, « je vous ai vu tirer de votre poche une bourse qui m'a paru non seulement fort ronde, mais on pourrait même dire quelque peu boursouflée. » « Ah, ceci, dit Coconas, c'est pour éteindre une ancienne dette que je suis obligé de payer à un vieil ami de mon père que je soupçonne d'être, comme vous, tant soit peu huguenot. »« Oui, il y a là 100 nobles à la roue, » continua Coconas en frappant sur sa poche, « mais ces 100 roubles à la rose appartiennent à maître Mercandon. Quant à mon patrimoine personnel, il se borne, comme je vous ai dit, à 6 écus. » Comment jouer alors ? Et c'est précisément à cause de cela que je voulais jouer. D'ailleurs, il m'est venu une idée. Laquelle ? Nous venons tous deux à Paris dans un même but. Oui, nous avons chacun un protecteur puissant. Oui, vous comptez sur le vôtre comme je compte sur le mien. Oui ? Eh bien, il m'était venu dans la pensée de jouer d'abord notre argent, puis la première faveur qui nous arrivera, soit de cour, soit de notre maîtresse. « En effet, c'est fort ingénieux, » dit la Mole en souriant, « mais j'avoue que je ne suis pas assez joueur pour risquer ma vie tout entière sur un coup de carte ou de dé, car de la première faveur qui nous arrivera à vous et à moi découlera probablement notre vie tout entière. » « Eh bien, laissons là la première heure de la cour et jouons la première faveur de notre maîtresse. »« Je n'y vois qu'un inconvénient, » dit la Mole. « Lequel ? Eh, c'est que je n'ai point de maîtresse, moi. Eh, ni moi non plus, mais je compte bien ne pas tarder à en avoir une. Dieu merci, on n'est point taillé de façon à manquer de femme. » Aussi, comme vous dites, n'en manquerez-vous point, monsieur de Coconas, mais comme je n'ai point la même confiance que vous dans mon étoile amoureuse, je crois que ce serait vous voler que de mettre mon enjeu dans le vôtre. Jouons donc jusqu'à concurrence de vos 6 écus, et si vous les perdiez par malheur et que vous voulussiez continuer le jeu, eh bien, vous êtes gentilhomme et votre parole vaut de l'or. « À la bonne heure !» s'écria Coconas, « et voilà qui est parlé. Vous avez raison, monsieur, la parole d'un gentilhomme vaut de l'or, surtout quand ce gentilhomme a du crédit à la cour. Aussi croyez que je ne me hasarderai pas en jouant contre vous la première faveur que je devrais recevoir. « Oh, sans doute, vous pouvez la perdre, mais moi, je ne pourrai pas la gagner, car étant roi de Navarre, je ne peux rien tenir de monsieur le duc de Guise. Ah !» « Par paillot !» murmura l'hôte, tout en fourbissant son vieux casque. « Je t'avais donc bien flairé !» Et il s'interrompit pour faire le signe de croix. « Ah ça, décidément !» reprit Coconas en battant les cartes que venait de lui apporter le garçon. « Vous en êtes donc ?»« Et de quoi ?»« Et de la religion !»« Moi ?»« Oui, vous !»« Eh bien, mettez que j'en sois !» dit la Mole en souriant. « Avez-vous quelque chose contre nous ?» « Oh, Dieu merci, non, cela m'est bien égal. Je hais profondément la huguenoterie, mais je ne déteste pas les huguenots, et puis c'est la mode. » « Oui, répliqua la Mole en riant, témoin l'arquebusade de monsieur l'amiral. Jouerons-nous aussi des arquebusades ?»« Comme vous voudrez, dit Coconas, pourvu que je joue, peu m'importe quoi. » « Jouons donc, » dit la Mole en ramassant ses cartes et en les rangeant dans sa main. « Oui, jouez, et jouez de confiance, car dussé-je perdre 100 écus d'or comme les vôtres, j'aurai demain matin de quoi les payer. »« La fortune vous viendra donc en dormant ?»« Non, c'est moi qui irai la trouver. »« Où cela, dites-vous ? J'irai avec vous, au Louvre. » « Vous y retournez cette nuit ?»« Oui, cette nuit, j'ai une audience particulière du grand duc de Guise. » Depuis que Coconas avait parlé d'aller chercher fortune au Louvre, la hurière s'était interrompue de fourbir sa salade et s'était venue placer derrière la chaise de la Mole de manière que Coconas seul le pût voir, et de là elle lui faisait des signes que le Piémonté, tout à son jeu et à sa conversation, ne remarquait pas. « Eh bien, voilà qui est miraculeux, » dit la Mole, « et vous aviez raison de dire que nous étions nés sous une même étoile. Moi aussi j'ai rendez-vous au Louvre cette nuit, mais ce n'est pas avec le duc de Guise, c'est avec le roi de Navarre. Avez-vous un mot d'ordre, vous ? Oui. Un signe de ralliement ? Non. Eh bien, j'en ai un, moi. Mon mot d'ordre est... » À ces mots du Piémontais, la hurière fit un geste si expressif, juste au moment où l'indiscret gentilhomme relevait la tête, que Coconas s'arrêta, pétrifié, bien plus que ce geste encore que du coup par lequel il venait de perdre 3 écus. En voyant l'étonnement qui se peignit sur le visage de son partenaire, la Mole se retourna. Mais il ne vit pas autre chose que son hôte derrière lui, les bras croisés, et coiffé de la salade qu'il lui avait vu fourbir l'instant auparavant. « Qu'avez-vous donc ?» dit la Mole à Coconas. Coconas regardait l'hôte et son compagnon sans répondre, et il ne comprenait rien au geste redoublé de maître la hurière. La hurière vit qu'il devait venir à son secours. « C'est que, dit-il rapidement, j'aime beaucoup le jeu aussi, moi, et comme je m'étais approché pour voir le coup sur lequel vous venez de gagner, monsieur m'aura vu coiffé en guerre, et cela l'aura surpris de la part d'un pauvre bourgeois. »« Bonne figure, en effet !» s'écria la Mole en éclatant de rire. « Eh, mon Dieu, oui, monsieur le comte, je suis sergent d'une compagnie de milices bourgeoises. » Et cela dit, tandis que la Mole était occupée à donner les cartes, la hurière se retira en posant un doigt sur ses lèvres pour recommander la discrétion à Coconas plus interdit que jamais. Cette précaution fut cause sans doute qu'il perdit le second coup presque aussi rapidement qu'il venait de perdre le premier. « Eh bien, dit la Mole, voilà qui fait juste vos 6 écus. Voulez-vous prendre votre revanche sur votre fortune future ?» Eh, « Volontiers, dit Coconas, volontiers. Mais avant de vous engager plus avant, ne me disiez-vous pas que vous aviez rendez-vous avec monsieur de Guise ?» Coconas tourna ses regards vers la cuisine et vit les gros yeux de la hurière qui répétaient le même avertissement. « Oui, dit-il, mais il n'est pas encore l'heure. D'ailleurs, parlons un peu de vous, monsieur de la Mole. Ouais, nous ferions mieux, je crois, de parler du jeu, mon cher monsieur de Coconas, car ou je me trompe fort, ou me voilà en train de vous gagner 6 écus. Morti, c'est la vérité, on me l'avait toujours dit que la huguenot avait du bonheur au jeu. Ah, j'ai envie de me faire huguenot, le diable m'emporte. » Les yeux de la hurière étincelèrent comme 2 charbons, mais Coconas, tout à son jeu, ne les aperçut pas. « Faites, comte, faites, dit la Mole, quoique la façon dont la vocation vous est venue soit singulière, vous serez le bien reçu parmi nous. » Coconas se gratta l'oreille. « Ah, si j'étais sûr que votre bonheur vienne de là, dit-il, je vous réponds bien, car enfin je ne tiens pas énormément à la messe, moi, et dès que le roi n'y tient pas non plus. »« Et puis, c'est une si belle religion, dit la Mole, si simple, si pure. » Et puis, elle est à la mode, dit Coconas, et puis, elle porte bonheur au jeu, car le diable m'emporte, il n'y a d'as que pour vous. Et cependant, je vous examine, depuis que nous avons les cartes en main, vous jouez franc jeu, vous ne trichez pas, il faut que ce soit la religion. Ah, vous me devez 6 écus de plus, dit tranquillement la Mole. Ah, comme vous me tentez, dit Coconas, et si cette nuit je ne suis pas content de monsieur de Guise, eh bien, « Eh bien, demain je vous demande de me présenter au roi de Navarre, et soyez tranquille, si une fois je me fais huguenot, je serai plus huguenot que Luther, que Calvin, et que Mélenchon, et que tous les réformistes de la terre. »« Chut, dit la Mole, vous allez vous brouiller avec notre hôte. »« Eh oui, c'est vrai, dit Coconas en tournant les yeux vers la cuisine. »« Mais non, il ne nous écoute pas, il est trop occupé en ce moment. » Eh, « Que fait-il donc ?» dit la Mole, qui, de sa place, ne pouvait l'apercevoir. « Il cause avec... Oh, le diable m'emporte, c'est lui !»« Qui, lui ?»« Ah, cette espèce d'oiseau de nuit avec lequel il causait déjà quand nous sommes arrivés, l'homme au pourpoint jaune et au manteau amadou. Mordi, quelle feuille limée !»« Eh, dites donc, maître la hurière, est-ce que vous faites de la politique par hasard ?» Mais cette fois, la réponse de maître la hurière fut un geste si énergique et si impérieux que, malgré son amour pour le carton peint, Coconas se leva et alla à lui. « Qu'avez-vous donc ? » demanda la Mole. Vous demandez du vin, mon gentilhomme, dit la Hurière, saisissant vivement la main de Coconas. On va vous en donner. Grégoire, du vin à ces messieurs. Puis à l'oreille, silence, lui dit-il, silence, sur votre vie, et congédez votre compagnon. La Hurière était si pâle, l'homme jaune si lugubre, que Coconas ressentit comme un frisson, et se retournant vers la Mole. Mon cher monsieur de la Mole, lui dit-il, je vous prie de m'excuser, voilà 50 écus que je perds en un tour de main, et je suis en malheur ce soir, et je craindrais de m'embarrasser. Fort bien, monsieur, fort bien, dit la Mole, à votre aise, d'ailleurs, je ne suis point fâché de me jeter un instant sur mon lit. Maître la Hurière, monsieur le comte, et si l'on venait me chercher de la part du roi de Navarre, vous me réveilleriez, je serais tout habillé, et par conséquent, vite prêt. « Eh, c'est comme moi, dit Coconas, pour ne pas faire attendre son Altesse un seul instant, je vais me préparer. Maître la Hurière, donnez-moi des ciseaux et du papier blanc. »« Grégoire, cria la Hurière, du papier blanc pour écrire une lettre et des ciseaux pour en tailler l'enveloppe. » Ah, ça, décidément, se dit à lui-même le piémontais, il se passe ici quelque chose d'extraordinaire. Bonsoir, monsieur de Coconas, dit la Mole, et vous, mon hôte, faites-moi l'amitié de me montrer le chemin de ma chambre. Bonne nuit, mon ami. » Et la Mole disparut dans l'escalier tournant, suivie de la Hurière. Alors l'homme mystérieux saisit à son tour le bras de Coconas, et l'attirant à lui, il lui dit avec volubilité, « Monsieur, vous avez failli révéler 100 fois un secret duquel dépend le sort du royaume. Dieu a voulu que votre bouche fût fermée à temps. Un mot de plus, j'allais vous abattre d'un coup d'arquebuse. Maintenant nous sommes seuls, heureusement. Écoutez. Mais qui êtes-vous pour me parler sur ce ton de commandement ?» demanda Coconas. « Avez-vous, par hasard, entendu parler du sire de Maurevel, le meurtrier de l'amiral, et du capitaine de Mouy ?»« Oui, sans doute. Eh bien, le sire de Maurevel, c'est moi. »« Oh, oh !» fit Coconas. « Écoutez-moi donc. Mordi, je crois bien que je vous écoute. »« Chut !» fit alors le sire de Maurevel, en portant son doigt à sa bouche. Coconas demeura l'oreille tendue. On entendit en ce moment l'hôte refermer la porte d'une chambre, puis la porte du corridor, y mettre les verrous et revenir précipitamment du côté des deux interlocuteurs. Il offrit alors un siège à Coconas, un siège à Maurevel, et en prenant un troisième pour lui, « Tout est bien clos, dit-il, monsieur de Maurevel, vous pouvez parler. » 11 heures sonnaient à Saint-Germain-l'Auxerrois, Maurevel compta l'un après l'autre chaque battement du marteau qui retentissait vibrant et lugubre dans la nuit, et quand le dernier se fut éteint dans l'espace, « Monsieur, dit-il, en se retournant vers Coconas, tout hérissé à l'aspect des précautions que prenaient les deux hommes, « Monsieur, vous êtes bon catholique ?»« Mais je le crois, répondit Coconas. « Monsieur, continua Maurevel, êtes-vous dévoué au roi ?»« Ah, de cœur et d'âme, je crois même que vous m'offensez, monsieur, en m'adressant une pareille question. »« Nous n'aurons pas de querelle là-dessus, seulement vous allez nous suivre. »« Et où cela ?» Peu vous importe, laissez-vous conduire, il y va de votre fortune et peut-être de votre vie. Ah, je vous préviens, monsieur, qu'à minuit, j'ai affaire au Louvre, et c'est précisément là que nous allons. Messieurs de Guise m'y attend, et nous aussi. Mais j'ai un mot de passe particulier, continua Coconas, un peu mortifié de partager l'honneur de son audience avec le sire de Maurevel et maître la Hurière. Nous aussi, mais j'ai un signe de la connaissance. Maurevel sourit, tira de dessous son pourpoint une poignée de croix en étoffe blanche, en donna une à la Hurière, une à Coconas, et en prit une pour lui. La Hurière attacha la sienne à son casque, Maurevel en fit autant de la sienne à son chapeau. « Oh ça !» dit Coconas, stupéfait. « Le rendez-vous, le mot d'ordre, le signe de ralliement, c'est donc pour tout le monde ?»« Oui, monsieur, c'est-à-dire pour tous les bons catholiques. » Et il y a fête au Louvre, alors, banquet royal, n'est-ce pas ? S'écria Coconas, et l'on veut exclure ces chiens de Huguenots. Bon, bien, à merveille, il y a assez longtemps qu'ils y paradent. Oui, il y a fête au Louvre, dit Maurevel, il y a banquet royal, et les Huguenots y seront invités. Il y a plus, ils seront les héros de la fête, ils paieront le banquet, et si vous voulez bien être des nôtres, nous allons commencer par aller inviter leur principal champion, leur Gédéon, comme ils disent. « Monsieur l'amiral, s'écria Coconas, et voilà pourquoi, mon gentilhomme, je fourbissais ma salade, j'affilais mon épée et je repassais mes couteaux, » dit d'une voix stridente maître la Hurière, travesti en guerre. À ces mots, Coconas frissonna et devint fort pâle, car il commençait à comprendre. Quoi, vraiment, s'écria-t-il, cette fête, ce banquet, c'est, on va... Vous avez été bien long à deviner, monsieur, dit Maurevel, et l'on voit bien que vous n'êtes pas fatigué comme nous des insolences de ces hérétiques. Et vous prenez sur vous, dit-il, d'aller chez l'amiral, les deux... Maurevel sourit, et attirant Coconas contre la fenêtre. Regardez, dit-il, voyez-vous, sur la petite place au bout de la rue, derrière l'église, cette troupe qui se range silencieusement dans l'ombre. Et oui, les hommes qui composent cette troupe ont, comme maître la Hurière, vous et moi, une croix au chapeau. Eh bien, ces hommes, c'est une compagnie de Suisses des petits cantons, commandée par Tocqueneau. Vous savez que messieurs des petits cantons sont des compères du roi. Oh, fit Coconas. Maintenant, voyez cette troupe de cavaliers qui passe sur le quai. Reconnaissez-vous son chef? Mais comment voulez-vous que je le reconnaisse? Dit Coconas, ou frémissant. Je suis à Paris de ce soir seulement. Eh bien, c'est celui avec qui vous allez prendre rendez-vous à minuit au Louvre. Voyez, il va vous y attendre. Le duc de Guise? Lui-même. Ceux qui l'escortent sont Marcel, l'ex-prévôt des marchands, et Choronpre. Prévôt actuel, les deux derniers vont mettre sur pied leur compagnie de bourgeois. Et tenez, voici le capitaine du quartier qui entre dans la rue. Regardez bien ce qu'il va faire. Il heurte à chaque porte, mais qu'y a-t-il donc sur les portes auxquelles il heurte? Une croix blanche, jeune homme, une croix pareille à celle que nous avons à nos chapeaux. Autrefois, on laissait à Dieu le soin de distinguer les siens. Aujourd'hui, nous sommes plus civilisés et nous lui épargnons cette besogne. Mais chaque maison à laquelle il frappe s'ouvre, et de chaque maison sortent des bourgeois armés. Il frappera la nôtre comme les autres, et nous sortirons à notre tour. Mais, dit Coconas, tout se monte sur pied pour aller tuer un vieil huguenot, mordi, c'est honteux, c'est une affaire d'égorgeur et non de soldat. Jeune homme, dit Maurevel, si les vieux vous répugnent, vous pourrez en choisir de jeunes, il y en a pour tous les goûts. Si vous méprisez les poignards, vous pourrez vous servir de l'épée, car les huguenots ne sont pas gens à se laisser égorger sans se défendre. Et vous le savez, les huguenots, jeunes ou vieux, ont la vie dure. Mais on les tuera donc tous, alors, s'écria Coconas. Tous, par ordre du roi, et par ordre du roi et de monsieur de Guise. Et quand cela? Ah, quand vous entendrez la cloche de Saint-Germain-l'Auxerrois. Ah, c'est donc pour ça que cet aimable Allemand qui est à monsieur Le Guise, comment l'appelez-vous donc, monsieur de Besme? Oui, justement, c'est donc pour ça que monsieur de Besme me disait d'accourir au premier coup de tocsin. Vous avez donc vu monsieur de Besme? Je l'ai vu, je lui ai parlé. Où cela? Au Louvre, c'est lui qui m'a fait entrer, qui m'a donné le mot d'ordre, qui m'a... Et regardez! Mordi, c'est lui-même. Voulez-vous lui parler? Ah, sur mon âme, je n'en serais pas fâché. Maurevel ouvrit doucement la fenêtre. Besme, en effet, passait avec une vingtaine d'hommes. Guise et Lorraine, dit Maurevel. Besme se retourna, et comprenant que c'était à lui qu'on avait affaire, il s'approcha. Ah ah, c'est très fou, monsieur de Maurevel. Eh oui, c'est moi, que cherchez-vous? J'y cherche l'auperche de la Belle Étoile pour prévenir un certain monsieur Gogonas. « Mais voici, monsieur de Besme, me dit le jeune homme. « Ah, pont, ah, bien, vous êtes prêt ?»« Eh oui, que faut-il faire ?»« Ce que fa foutir monsieur de Maurevel, être un bon catholique. »« Vous m'entendez ?» dit Maurevel. « Eh oui, répondit Coconas. Mais vous, monsieur de Besme, où allez-vous »« Moi, dit de Besme en riant. Eh oui, vous. Moi, je vais dire un petit mot à l'amiral. » dites-lui en deux s'il le faut, dit Maurevel, et que cette fois, s'il se relève du premier, il ne se relève pas du second. Soyez tranquille, monsieur de Maurevel, soyez tranquille, et tressez-moi bien ce jeune homme-là. Ah oui, n'ayez pas de crainte, les Coconas sont de fins limiers et bons chiens chasse de race. Adieu. Allez. Et fou? Commencez toujours la chose, nous arriverons pour la curer. De Besme s'éloigna et Maurevel ferma la fenêtre. « Vous entendez, jeune homme, dit Maurevel, si vous avez quelque ennemi particulier, quand il ne serait pas tout à fait huguenot, mettez-le sur la liste, il passera avec les autres. » Coconas, plus étourdi que jamais de tout ce qu'il voyait et de tout ce qu'il entendait, regardait tour à tour l'hôte qui prenait des poses formidables et Maurevel qui tirait tranquillement un papier de sa poche. « Quant à moi, voici ma liste, dit-il, 300. » Que chaque bon catholique fasse cette nuit la dixième partie de la besogne que je ferai, il n'y aura plus demain un seul hérétique dans le royaume. Chut, dit la Hurière. Quoi? Répétèrent ensemble Coconas et Maurevel. on entendit vibrer le premier coup du beffroi de Saint-Germain-l'Auxerrois. « Le signal !» s'écria Maurevel. « L'heure est donc avancée, ce n'était que minuit, m'avait-on dit. Tant mieux, quand il s'agit de la gloire de Dieu et du roi, mieux vaut les horloges qui avancent que celles qui retardent. » En effet, on entendit tinter lugubrement la cloche de l'église. Bientôt, un premier coup de feu retentit, et presque aussitôt, la lueur de plusieurs flambeaux illumina comme un éclair la rue de l'Arbre sec. Coconas passa sur son front sa main humide de sueur. « C'est commencé !» s'écria Maurevel. « En route !»« un moment !» dit l'hôte. « Avant de nous mettre en compagnie, assurons-nous du logis, comme on dit à la guerre. Je ne veux pas qu'on égorge ma femme et mes enfants pendant que je serai dehors. Il y a un huguenot ici. » « Messieurs de la Mole !» s'écria Coconas avec un soubresaut. « Oui, le parpaillot s'est jeté dans la gueule du loup. »« Et comment, dit Coconas, vous attaqueriez à votre hôte ?»« Et c'est à son intention, surtout, que j'ai repassé ma rapière. »« Mordis, c'est dur !» objecta Coconas. « Monsieur de la Mole est mon compagnon. Monsieur de la Mole a soupé avec moi. Monsieur de la Mole a joué avec moi. » « Oui, mais Monsieur de la Mole est un hérétique, » dit Maurevel. « Monsieur de la Mole est condamné. Si nous ne le tuons pas, d'autres le tueront. »« Et sans compter, » dit l'autre, « qu'il vous a gagné 50 écus. »« C'est vrai, » dit Coconas, « mais loyalement, j'en suis sûr. »« Loyalement ou non, il faudra toujours le payer, tandis que si je le tue, vous êtes quitte. » Allons, allons, dépêchons, messieurs, s'écria Maurevel. Une arquebusade, un coup de rapière, un coup de marteau, un coup de chenet, un coup de ce que vous voudrez, mais finissons-en, si vous voulez arriver à temps, comme nous l'avons promis, pour aider monsieur Guy chez l'amiral. Coconas soupira. J'y cours, s'écria la hurière, attendez-moi. Mordi, s'écria Coconas, il va faire souffrir ce pauvre garçon et le voler peut-être. Ah, je veux être là pour l'achever s'il est besoin et empêcher qu'on ne touche à son argent. Ému par cette heureuse idée, Coconas monta l'escalier derrière Maître la Hurière, qui l'eut bientôt rejoint, car à mesure qu'il montait, par un effet de réflexion sans doute, la Hurière ralentissait le pas. Au moment où il arrivait à la porte, toujours suivi de Coconas, plusieurs coups de feu retentirent dans la rue. Aussitôt, on entendit la Mole sauter de son lit et le plancher crier sous son pas. « Diable !» murmura la Hurière un peu troublée. « Il est réveillé, je crois. » « Eh, ça m'en a l'air, » dit Coconas. « Et il va se défendre. »« Eh, il en est capable, dis donc, Maître la Hurière, s'il allait vous tuer, ce serait drôle. »« fit l'hôte. » Mais se sentant armé d'une bonne arquebuse, il se rassura et enfonça la porte d'un vigoureux coup de pied. On vit alors la Mole, sans chapeau, mais tout vêtue, retranchée derrière son lit, son épée entre les dents et ses deux pistolets à la main. « Oh !» dit Coconas en ouvrant les narines en véritable bête fauve qui flaire le sang. « Et voilà qui devient intéressant, Maître la Hurière. Allons, allons, en avant !»« Ah, l'on veut m'assassiner, à ce qu'il paraît !» cria la Mole, dont les yeux flamboyaient. « Et c'est toi, misérable !» Maître la Hurière ne répondit à cette apostrophe qu'en abaissant son arquebuse et qu'en mettant le jeune homme en joue. Mais la Mole avait vu la démonstration, et au moment où le coup partit, il se jeta à genoux et la balle passa au-dessus de sa tête. « À moi !» cria la Mole. « À moi, monsieur de Coconas !»« À moi, monsieur de Maurevel !»« À moi !» cria la Hurière. « Ma foi, monsieur la Mole, dit Coconas, tout ce que je puis dans cette affaire est de ne point me mettre contre vous. Il paraît que l'on tue cette nuit les huguenots au nom du roi. Tirez-vous de là comme vous pourrez. » « Ah, traître, ah, assassin, c'est comme cela. Eh bien, attendez !» Et la Mole, visant à son tour, lâcha la détente d'un de ses pistolets. La Hurière, qui ne le perdait pas de vue, eut le temps de se jeter de côté. Mais Coconas, qui ne s'attendait pas à cette riposte, resta à la place où il était et la balle lui effleura l'épaule. « Mordi !» s'écria-t-il en grinçant les dents. « J'en tiens. Eh, à nous deux, puisque tu le veux !» Et, tirant sa rapière, il s'élança vers la Mole. Sans doute, s'il eût été seul, la Mole l'eût attendu, mais Coconas avait derrière lui Maître la Hurière, qui rechargeait son arquebuse, sans compter Maurevel, qui, pour se rendre à l'invitation de l'aubergiste, montait les escaliers 4 à 4. La Mole se jeta donc dans un cabinet et verrouilla la porte derrière lui. « Ah, chelme !» s'écria Coconas furieux, heurtant la porte du pommeau de sa rapière. « Attends, attends, je veux te trouer le corps d'autant de coups d'épée que tu m'as gagné d'écus ce soir. Ah, je viens pour t'empêcher de souffrir. Ah, je viens pour qu'on ne te vole pas et tu ne me récompenses qu'en m'envoyant une balle dans l'épaule. Attends, Birbonne, attends !» Sur ces entrefaites, Maître Laurière s'approcha et d'un coup de crosse de son arquebuse fit voler la porte en éclats. Coconas s'élança dans le cabinet, mais il alla donner le nez contre la muraille. Le cabinet était vide et la fenêtre ouverte. « Ah, il se sera précipité, dit l'hôte, et comme nous sommes au quatrième, il est mort. » « Ou il se sera sauvé par le toit de la maison voisine, » dit Coconas en enjambant la barre de la fenêtre et en s'apprêtant à le suivre sur ce terrain glissant et escarpé. Mais Maurevel et Laurière se précipitèrent sur lui et, le ramenant dans la chambre, « Êtes-vous fous ? » s'écrièrent-ils tous deux à la fois. « Vous allez vous tuer !»« Ah bah !» dit Coconas, « je suis montagnard, moi, et habitué à courir dans les glaciers. D'ailleurs, quand un homme m'a insulté une fois, je monterai avec lui jusqu'au ciel et je descendrai avec lui jusqu'en enfer, quelque chemin qu'il prit pour y arriver. Laissez-moi faire. Allons donc, dit Maurevel, où il est mort, où il est loin maintenant. Venez avec nous, et si celui-là vous échappe, vous en trouverez 1000 autres à sa place. Vous avez raison, hurla Coconas. Mort ou huguenot, j'ai besoin de me venger, et le plus tôt sera le mieux. Et tous trois descendirent l'escalier comme une avalanche. « Chez l'amiral !» cria Maurevel. « Chez l'amiral !» répéta Laurière. « Chez l'amiral, donc, puisque vous le voulez, » dit à son tour Coconas. Et tous trois s'élancèrent de l'hôtel de la Belle Étoile, laissés en garde à Grégoire et aux autres garçons, se dirigeant vers l'hôtel de l'amiral, situé rue de Béthisy. Une flamme brillante et le bruit des arquebusades les guidaient de ce côté. « Eh, qui vient là ?» s'écria Coconas. « Un homme sans pourpoint et sans écharpe. »« C'en est un qui se sauve, » dit Maurevel. « à vous qui avez des arquebuses !» s'écria Coconas. « Ma foi, non, » dit Maurevel, « je garde ma poudre pour un meilleur gibier. À vous, la Hurière !»« Attendez, attendez !» dit l'aubergiste en ajustant. « Oui, oui, attendez !» s'écria Coconas, et en attendant, il va se sauver. » Et il s'élança à la poursuite du malheureux, qui l'eut bientôt rejoint, car il était déjà blessé. Mais au moment où, pour ne pas le frapper par derrière, il lui criait « Tourne, mais tourne donc !» un coup d'arquebuse retentit, une balle siffla aux oreilles de Coconas, et le fugitif roula comme un lièvre atteint dans sa course la plus rapide par le plomb du chasseur. Un cri de triomphe se fit entendre derrière Coconas. Le piémontais se retourna et vit la Hurière agitant son arme. « Ah, cette fois, s'écria-t-il, j'ai étrenné au moins !» « Oui, mais vous avez manqué me percer d'outre en outre, moi !»« Prenez garde, mon gentilhomme, prenez garde !» cria la Hurière. Coconas fit un bond en arrière, le blessé s'était relevé sur un genou, et tout entier à la vengeance, il allait percer Coconas de son poignard au moment même où l'avertissement de son hôte avait prévenu le piémontais. « Ah, vipère !» s'écria Coconas, et se jetant sur le blessé, il lui enfonça trois fois son épée jusqu'à la garde dans la poitrine. « Et maintenant, » s'écria Coconas, laissant le huguenot se débattre dans les convulsions de l'agonie, « chez l'amiral, chez l'amiral !»« Ah, mon gentilhomme, » dit Maurevel, « il paraît que vous y mordez. »« Eh, ma foi, oui, » dit Coconas, « je ne sais pas si c'est l'odeur de la poudre qui me grise ou la vue du sang qui m'excite, mais, mordi, je prends goût à la tuerie. » C'est comme qui dirait une battue à l'homme. Je n'ai encore fait que des battues à l'ours et au loup, et sur mon honneur, la battue à l'homme me paraît plus divertissante. » Et tous trois reprirent leur course. L'hôtel qu'habitait l'amiral était, comme nous l'avons dit, situé rue de Béthisy. C'était une grande maison, s'élevant au fond d'une cour, avec deux ailes en retour sur la rue. Un mur ouvert par une grande porte et par deux petites grilles donnait l'entrée dans cette cour. Lorsque nos trois guisards atteignirent l'extrémité de la rue de Béthisy, qui fait suite à la rue des Fossés de Saint-Germain-l'Auxerrois, ils virent l'hôtel entouré de Suisses, de soldats et de bourgeois en armes. Tous tenaient à la main droite ou des épées ou des piques ou des arquebuses, et quelques-uns à la main gauche des flambeaux, qui répandaient sur cette scène un jour funèbre et vacillant, lequel, suivant le mouvement imprimé, s'épandait sur le pavé, montait le long des murailles ou flamboyait sur cette mer vivante où chaque arme jetait son éclair. Tout autour de l'hôtel et dans les rues Tirechappe, Étienne et Berlin-Poiré, l'œuvre terrible s'accomplissait. De longs cris se faisaient entendre, la mousqueterie pétillait, et de temps en temps, quelques malheureux, à moitié nus, pâles, ensanglantés, passaient, bondissaient comme un daim poursuivi dans un cercle de lumière funèbre où semblait s'agiter un monde de démons. Au centre de cette cour, dont les trois portes étaient enfoncées, un homme autour duquel les assassins laissaient un vide respectueux se tenait debout, appuyé sur une rapière nue et les yeux fixés sur un balcon élevé de 15 pieds à peu près et s'étendant devant la fenêtre principale de l'hôtel. Cet homme frappait du pied avec impatience et de temps en temps se retournait pour interroger ceux qui se trouvaient les plus proches de lui. « Rien encore, murmura-t-il. Personne. Il aura été prévenu, il aura fui. Qu'en pensez-vous, Dugast ?»« Impossible, monseigneur. Eh, pourquoi pas ? Ne m'avez-vous pas dit qu'un instant avant que nous arrivassions, un homme sans chapeau, les pieds nus à la main et courant comme s'il était poursuivi, était venu frapper à la porte et qu'on lui avait ouvert ?» « Oui, monseigneur, mais presque aussitôt, monsieur de Besme est arrivé, les portes ont été enfoncées, l'hôtel cerné, l'homme est bien entré, mais à coup sûr, il n'a pas pu sortir. »« Eh, mais, dit Coconas à la hurière, est-ce que je me trompe? N'est-ce pas là monsieur de Guise que je vois là ?»« Lui-même, mon gentilhomme, oui, c'est le grand Henri de Guise, en personne, qui attend sans doute que l'amiral sorte pour lui en faire autant que l'amiral en a fait à son père. » Chacun à son tour, mon gentilhomme, et Dieu merci, c'est aujourd'hui le nôtre. Hola, Besme, hola, cria le duc de sa voix puissante, n'est-ce donc point encore fini? Et de la pointe de son épée impatiente, comme lui, il faisait jaillir des étincelles du pavé. En ce moment, on entendit comme des cris dans l'hôtel, puis des coups de feu, puis un grand mouvement des pieds et un bruit d'armes heurtées, auquel succéda un nouveau silence. Le duc fit un mouvement pour se précipiter dans la maison. « Monseigneur, monseigneur, lui dit Dugast en se rapprochant de lui et en l'arrêtant, votre dignité vous commande de demeurer et d'attendre. »« Ah, tu as raison, Dugast, merci, j'attendrai, mais en vérité, je meurs d'impatience et d'inquiétude. Ah, s'il m'échappait !» Tout à coup, le bruit des pas se rapprocha. Les vitres du premier étage s'illuminèrent de reflets pareils à ceux d'un incendie. La fenêtre sur laquelle le duc avait tant de fois levé les yeux s'ouvrit, ou plutôt vola en éclats. Et un homme, au visage pâle et au cou blanc tout souillé de sang, apparut sur le balcon. « Besme ! Cria le duc. « Enfin, c'est toi ! Eh bien, eh bien !»« Voilà, voilà !» répondit froidement l'Allemand, qui, se baissant, se releva presque aussitôt, en paraissant soulever un poids considérable. « Mais les autres ! Demanda impatiemment le duc. « Les autres, où sont-ils ? » ?»«
Les autres, ils achèvent les autres. »«
Et toi ? Et toi, qu'as-tu fait ?»«
Moi, foule aller voir, reguler un bœuf. »
Le duc fit un pas en arrière. En ce moment, on put distinguer l'objet que Besme attirait à lui d'un si puissant effort, c'était le cadavre d'un vieillard. Il le souleva au-dessus du balcon, le balança un instant dans le vide et le jeta aux pieds de son maître. Le bruit sourd de la chute, les flots de sang qui jaillissaient du corps et diaprèrent au loin le pavé, frappèrent d'épouvante jusqu'au duc lui-même. Mais ce sentiment dura peu, et la curiosité fit que chacun s'avança de quelques pas et que la lueur d'un flambeau vint trembler sur la victime. On distingua alors une barbe blanche, un visage vénérable et des mains raidies par la mort.
« L'amiral ! » s'écrièrent ensemble 20 voix qui ensemble se turent aussitôt.
« Oui, l'amiral, c'est bien lui, dit le duc en se rapprochant du cadavre, pour le contempler avec une joie silencieuse. « L'amiral, l'amiral !» répétèrent à demi-voix tous les témoins de cette terrible scène, se serrant les uns contre les autres et se rapprochant timidement de ce grand vieillard abattu.
« Ah, te voilà donc, Gaspard !» dit le duc de Guise triomphant. « Tu as fait assassiner mon père, je le venge !»
Et il osa poser le pied sur la poitrine du héros protestant. Mais aussitôt les yeux du mourant s'ouvrirent avec effort, sa main sanglante et mutilée se crispa une dernière fois, et l'amiral, sans sortir de son immobilité, dit au sacrilège d'une voix sépulcrale,
« Henri de Guise, un jour aussi tu sentiras sur ta poitrine le pied d'un assassin. Je n'ai pas tué ton père, sois maudit !»
Le duc, pâle et tremblant malgré lui, sentit un frisson de glace courir par tout son corps. Il passa la main sur son front comme pour en chasser la vision lugubre. Puis, quand il la laissa tomber, quand il osa porter la vue sur l'amiral, ses yeux étaient refermés, sa main était redevenue inerte, et un sang noir épanché de sa bouche sur sa barbe blanche avait succédé aux terribles paroles que cette bouche venait de prononcer. Le duc releva son épée avec un geste de résolution désespérée.
« Eh bien, mon sire, lui dit Besme, êtes-vous content ?»«
Oui, mon brave, oui, répliqua Henri IV, tu as vengé
le duc François, n'est-ce pas ?»«
La religion, reprit Henri d'une voix sourde. Et maintenant, continua-t-il, en se retournant vers les Suisses, les soldats et les bourgeois qui encombraient la cour et la rue,
à l'œuvre, mes amis, à l'œuvre !» Eh, bonjour, monsieur de Besme, dit alors Coconas, s'approchant avec une sorte d'admiration de l'Allemand qui, toujours sur le balcon, essuyait tranquillement son épée. C'est donc vous qui l'avez expédié? Cria la Hurière en extase. Comment avez-vous fait cela, mon digne gentilhomme? Or, bien simplement, il a entendu tu bruit, il a ouvert son borde, et moi, liavre passé, mon rapier dans le corps à lui. Mais ce n'est pas le tout, je crois que les Téligny andiens, je l'entends griller. En ce moment, en effet, quelques cris de détresse qui semblaient poussés par une voix de femme se firent entendre. Des reflets rougeâtres illuminèrent une des deux ailes formant galerie. On aperçut deux hommes qui fuyaient, poursuivis par une longue file de massacreurs. Une arquebusade tua l'un, l'autre trouva sur son chemin une fenêtre ouverte, et sans mesurer la hauteur, sans s'inquiéter des ennemis qui l'attendaient en bas, il sauta intrépidement dans la cour. « Tuez, tuez !» crièrent les assassins en voyant leur victime prête à s'échapper. L'homme se releva et, ramassant son épée, qui dans sa chute lui était échappée des mains, prit sa course tête baissée à travers les assistants, en culbuta trois ou quatre, en perça un de son épée, et au milieu du feu des pistolades, au milieu des imprécations des soldats furieux de l'avoir manqué, il passa comme un éclair devant Coconas, qui l'attendait à la porte le poignard à la main. « Touché !» cria Piémontais en lui traversant le bras de sa lame fine et aiguë. « Lâche !» répondit le fugitif en fouettant le visage de son ennemi avec la lame de son épée, faute d'espace pour lui donner un coup de pointe. « Oh, mille démons !» s'écria Coconas, « c'est monsieur de la Mole !»« Monsieur de la Mole !» répétèrent la Hurière et Maurevel. Coconas, la Hurière et 10 soldats s'élancèrent à la poursuite de la Mole, qui, couvert de sang et arrivé à ce degré d'exaltation qui est la dernière réserve de la vigueur humaine, bondissait par les rues sans autre guide que l'instinct. Derrière lui, des pas et des cris des ennemis les prenaient et semblaient lui donner des ailes. Parfois, une balle sifflait à son oreille et imprimait tout à coup à sa course, près de se ralentir, une nouvelle rapidité. Ce n'était plus une respiration, ce n'était plus une haleine qui sortait de sa poitrine, mais un râle sourd, mais un rauque hurlement. La sueur et le sang dégouttaient de ses yeux et coulaient confondus sur son visage. Bientôt son pourpoint devint trop serré pour les battements de son cœur et il l'arracha. Bientôt son épée devint trop lourde pour sa main, il la jeta loin de lui. Parfois il lui semblait que les pas s'éloignaient et qu'il était prêt d'échapper à ses bourreaux, mais au cri de ceux-ci, d'autres massacreurs qui se trouvaient sur son chemin et plus rapprochés quittaient leur besogne sanglante et accouraient. Tout à coup il aperçut la rivière coulant silencieusement à sa gauche. Il lui sembla qu'il éprouverait, comme le cerf aux abois, un indicible plaisir à s'y précipiter et la force suprême de la raison put seule le retenir. À sa droite, c'était le Louvre, sombre, immobile, mais plein de bruits sourds et sinistres. Sur le pont-levis entraient et sortaient des casques, des cuirasses, qui renvoyaient en froids éclairs les rayons de la lune. La Mole songea au roi de Navarre comme il avait songé à Coligny, c'étaient ses deux seuls protecteurs. Il réunit toutes ses forces, regarda le ciel en faisant tout bas le vœu d'abjurer s'il échappait au massacre, fit perdre par un détour une 30aine de pas à la meute qu'il poursuivait, piqua droit vers le Louvre, s'élança sur le pont pêle-mêle avec les soldats, reçut un nouveau coup de poignard qui glissa le long des côtes, et malgré les cris de « tu, tu » qui retentissaient derrière lui et autour de lui, malgré l'attitude offensive que prenaient les sentinelles, il se précipita comme une flèche dans la cour, bondit jusqu'au vestibule, franchit l'escalier, monta 2 étages, reconnut une porte et s'y appuya en frappant des pieds et des mains. « Qui est là ?» murmura une voix de femme. « Oh, mon Dieu !» murmura la Mole. « Ils viennent, je les entends, les voilà, je les vois. C'est moi, c'est moi !»« C'est qui, vous ?» reprit la voix. La Mole se rappela le mot d'ordre. « Navarre, Navarre » cria-t-il. Aussitôt la porte s'ouvrit. La Mole, sans voir, sans remercier Gillonne, fit irruption dans un vestibule, traversa un corridor, 2 ou 3 appartements, et parvint enfin dans une chambre éclairée par une lampe suspendue au plafond. Sous des rideaux de velours fleurdilisé d'or, dans un lit de chêne sculpté, une femme à moitié nue, appuyée sur son bras, ouvrait des yeux fixes d'épouvante. La Mole se précipita vers elle. « Madame, s'écria-t-il, on tue, on égorge mes frères, on veut me tuer, on veut m'égorger aussi. Ah, vous êtes la reine, sauvez-moi » et il se précipita à ses pieds, laissant sur le tapis une large trace de sang. Et, voyant cet homme pâle, défait, agenouillé devant elle, la reine de Navarre se dressa épouvantée, cachant son visage entre ses mains et criant au secours. « Madame, dit la mole en faisant un effort pour se relever, au nom du ciel, n'appelez pas, car si l'on vous entend, je suis perdu. Des assassins me poursuivent, ils montaient les degrés derrière moi, je les entends, les voilà, les voilà !»« Au secours !» répéta la reine de Navarre hors d'elle, « au secours !»« Ah, c'est vous qui m'avez tué, dit la mole au désespoir, mourir par une si belle voix, mourir par une si belle main, ah, j'aurais cru cela impossible !» Au même instant, la porte s'ouvrit et une meute d'hommes haletants, furieux, le visage taché de sang et de poudre, arquebuse, hallebarde et épée en arrêt, se précipita dans la chambre. À leur tête était Coconas, ses cheveux roux hérissés, son œil bleu, pâle, démesurément dilaté, la joue toute meurtrie par l'épée de la mole qui avait tracé sur les chairs son sillon sanglant. Ainsi défiguré, le piémontais était terrible à voir. « Mordi ! Cria-t-il. Le voilà, le voilà ! Ah, cette fois, nous le tenons enfin !» La mole chercha autour de lui une arme et n'en trouva point. Il jeta les yeux sur la reine et vit la plus profonde pitié peinte sur son visage. Alors il comprit qu'elle seule pouvait le sauver, se précipita vers elle et l'enveloppa dans ses bras. Coconas fit trois pas en avant et, de la pointe de sa longue rapière, troua encore une fois l'épaule de son ennemi, et quelques gouttes de sang tiède et vermeil diaprèrent comme une rosée les draps blancs et parfumés de Marguerite. Marguerite vit couler le sang. Marguerite sentit frissonner ce corps enlacé au sien. Elle se jeta avec lui dans la ruelle. Il était temps. La mole, au bout de ses forces, était incapable de faire un mouvement ni pour fuir, ni pour se défendre. Il appuya sa tête livide sur l'épaule de la jeune femme, et ses doigts crispés se cramponnèrent en la déchirant à la fine batiste brodée qui couvrait d'un flot de gaz le corps de Marguerite. « Ah, madame, madame » murmura-t-il d'une voix mourante, « sauvez-moi !» Ce fut tout ce qu'il put dire. Son œil voilé par un nuage pareil à la nuit de la mort s'obscurcit, sa tête alourdie retomba en arrière, ses bras se détendirent, ses reins plièrent, et il glissa sur le plancher dans son propre sang, entraînant la reine avec lui. En ce moment, Coconas, exalté par les cris, enivré par l'odeur du sang, exaspéré par la course ardente qu'il venait de faire, allongea le bras vers l'alcôve royale. Un instant encore, et son épée perçait le cœur de la mole et peut-être en même temps celui de Marguerite. À l'aspect de ce fer nu, et peut-être plus encore à la vue de cette insolence brutale, la fille des rois se releva de toute sa taille et poussa un cri tellement empreint d'épouvante, d'indignation et de rage que le piémontais demeura pétrifié par un sentiment inconnu. Il est vrai que si cette scène se fût prolongée et renfermée entre les mêmes acteurs, ce sentiment allait se fondre comme neige matinale au soleil d'avril. Mais tout à coup, par une porte cachée dans la muraille, s'élança un jeune homme de 16 à 17 ans, vêtu de noir, pâle et les cheveux en désordre. « Attends, ma sœur, attends » cria-t-il. « Me voilà, me voilà !»« François, François, à mon secours !» dit Marguerite. « Le duc d'Alençon !» murmura la Hurière en baissant son arquebuse. « Mordi, un fils de France !» grommela Coconas en reculant d'un pas. Le duc d'Alençon jeta un regard autour de lui, il vit Marguerite échevelée et plus belle que jamais, appuyée à la muraille, entourée d'hommes la fureur dans les yeux, la sueur au front et l'écume à la bouche. « Misérable ! S'écria-t-il. « Sauvez-moi, mon frère, dit Marguerite épuisée, ils veulent m'assassiner. » Une flamme passa sur le visage pâle du duc. Quoiqu'il fût sans armes, soutenu sans doute par la conscience de son nom, il s'avança les poings crispés contre Coconas et ses compagnons, qui reculèrent épouvantés devant les éclairs qui jaillissaient de ses yeux. « Assassineriez-vous ainsi un fils de France ? Voyons !» Puis, comme il continuait de reculer devant lui, « Ça, mon capitaine des gardes, venez ici, et que l'on me pente tous ces brigands !» Plus effrayé à la vue de ce jeune homme sans armes qu'il ne l'eût été à l'aspect d'une compagnie de reîtres ou de lansquenets, Coconas avait déjà gagné la porte. La Hurière redescendait les degrés avec des jambes de serre, les soldats s'entrechoquaient et se culbutaient dans le vestibule pour fuir au plus tôt, trouvant la porte trop étroite comparée au grand désir qu'ils avaient d'être dehors. Pendant ce temps, Marguerite avait instinctivement jeté sur le jeune homme évanoui sa couverture de damas, puis s'était éloigné de lui. Quand le dernier meurtrier eut disparu, le duc d'Alençon se retourna. « Ma sœur, s'écria-t-il en voyant Marguerite toute marbrée de sang, serais-tu blessée ?» Et il s'élança vers sa sœur avec une inquiétude qui eût fait honneur à la tendresse si cette tendresse n'eût pas été accusée d'être plus grande qu'il ne convenait à un frère. « Non, dit-elle, je ne le crois pas, ou si je le suis, c'est légèrement. « Mais ce sang, dit le duc en parcourant de ses mains tremblantes tout le corps de Marguerite, ce sang, d'où vient-il » « Je ne sais, dit la jeune femme, un de ces misérables a porté la main sur moi, peut-être était-il blessé. »« Porter la main sur ma sœur, s'écria le duc. Ah, si tu me l'avais seulement montré du doigt, si tu m'avais dit lequel, si je savais où le trouver. » « Chut, dit Marguerite. Et pourquoi ? Parce que si l'on vous voyait à cette heure dans ma chambre, un frère ne peut-il pas visiter sa sœur, Marguerite ?» La reine arrêta sur le duc d'Alençon un regard si fixe et cependant si menaçant que le jeune homme recula. « Oui, oui, Marguerite, dit-il, tu as raison, oui, je rentre chez moi, mais tu ne peux rester seule pendant cette nuit terrible, veux-tu que j'appelle Gionne ?»« Non, non, personne, va-t'en, François, va-t'en par où tu es venu. » Le jeune prince obéit. Et à peine eut-il disparu que Marguerite, entendant un soupir qui venait de derrière son lit, s'élança vers la porte du passage secret, la ferma au verrou, puis courut à l'autre porte qu'elle ferma de même, juste au moment où un gros d'archers et de soldats qui poursuivaient d'autres huguenots logés dans le Louvre passait comme un ouragan à l'extrémité du couloir. Alors, après avoir regardé avec attention autour d'elle pour voir si elle était bien seule, elle revint vers la ruelle de son lit, souleva la couverture de damas qui avait dérobé le corps de monsieur de la Mole au regard du duc d'Alençon, tira avec effort la masse inerte dans la chambre, et voyant que le malheureux respirait encore, elle s'assit, appuya sa tête sur ses genoux et lui jeta de l'eau au visage pour le faire revenir. Ce fut alors seulement que l'eau, écartant le voile de poussière, de poudre et de sang qui couvrait la figure du blessé, que Marguerite reconnut en lui ce beau gentilhomme qui, plein d'existence et d'espoir, était 3 ou 4 heures auparavant venu lui demander sa protection près du roi de Navarre et l'avait, en la laissant rêveuse elle-même, quittée, éblouie de sa beauté. Marguerite jeta un cri d'effroi, car maintenant ce qu'elle ressentait pour le blessé, c'était plus que de la pitié, c'était de l'intérêt. En effet, le blessé, pour elle-même, n'était plus un simple étranger, c'était presque une connaissance. Sous sa main, le beau visage de la Mole reparut bientôt tout entier, mais pâle, alangui par la douleur. Elle mit avec un frisson mortel et presque aussi pâle que lui la main sur son cœur, et son cœur battait encore. Alors elle étendit cette main vers un flacon de sel qui se trouvait sur une table voisine et le lui fit respirer. La Mole ouvrit les yeux. « Oh mon Dieu, murmura-t-il, où suis-je ? Sauvez, rassurez-vous, sauvez, dit Marguerite. » La Mole tourna avec effort son regard vers la reine, la dévora un instant des yeux et balbutia « Oh, que vous êtes belle !» Et comme ébloui, il referma aussitôt la paupière en poussant un soupir. Marguerite jeta un léger cri. Le jeune homme avait pâli encore, si c'était possible, et elle crut un instant que ce soupir était le dernier. « Oh, mon Dieu, dit-elle, ayez pitié de lui !» En ce moment, on heurta violemment à la porte du corridor. Marguerite se leva à moitié, soutenant la Mole par-dessus l'épaule. « Qui va là » cria-t-elle. « Madame, madame, c'est moi, moi !» cria une voix de femme. « Moi, la duchesse de Nevers !»« Henriette !» se cria Marguerite. « Oh, il n'y a pas de danger, c'est une amie. Entendez-vous, monsieur ?» La Mole fit un effort et se souleva sur un genou. « Tâchez de vous soutenir, tandis que je vais ouvrir la porte, » dit la reine. La Mole appuya sa main à terre et parvint à garder l'équilibre. Marguerite fit un pas vers la porte, mais elle s'arrêta tout à coup, frémissant d'effroi. « Ah, tu n'es pas seule, » s'écria-t-elle en entendant un bruit d'armes. « Non, je suis accompagnée de 12 gardes que m'a laissé mon beau-frère, le duc de Guise. »« Monsieur de Guise, » murmura la Mole. « Oh, l'assassin, l'assassin !» « Silence, dit Marguerite, pas un mot !» Et elle regarda tout autour d'elle pour voir où elle pourrait cacher le blessé. « Non, non, dit Marguerite, non, je vous sauverai. Ah, ce cabinet, venez, venez !» La Mole fit un effort, et soutenu par Marguerite, il se traîna jusqu'au cabinet. Marguerite ferma la porte derrière lui, et, serrant la clé dans son aumônière, « Pas un cri, pas une plainte, pas un soupir !» lui glissa-t-elle à travers le lambris. « Et vous êtes sauvé !» Puis, jetant un manteau de nuit sur ses épaules, elle alla ouvrir à son amie qui se précipita dans ses bras. « Ah ! Dit-elle, Il ne vous est rien arrivé, n'est-ce pas, madame ?
Non, rien, dit Marguerite, croisant son manteau pour qu'on ne vît point les taches de sang qui maculaient son peignoir.
Ah, tant mieux. Mais en tout cas, comme monsieur le duc de Guise m'a donné 12 gardes pour me reconduire à son hôtel, et que je n'ai pas besoin d'un si grand cortège, j'en ai 6 à votre majesté.
6 gardes de monsieur le duc de Guise valent mieux cette nuit qu'un régiment entier des gardes du roi.
Marguerite n'osa refuser. Elle installa ses 6 gardes dans le corridor et embrassa la duchesse qui, avec les 6 autres, regagna l'hôtel du duc de Guise qu'elle habitait en l'absence de son mari.